Étant contagieuse, il est recommandé de limiter les contacts physiques avec les personnes présentant les signes apparents de grippe, c'est-à-dire un nez qui coule, accompagné d'une poussée de fièvre, les céphalées, l'irritation de la gorge, les courbatures, la fatigue. Les règles d'hygiène doivent être strictement suivies en cette période.
Merci Firma.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Nous vous le disions au début de ce programme, cette semaine nous parlons de la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie génétique de l'hémoglobine, une substance contenue dans les globules rouges qui sert à transporter l'oxygène à travers le corps. La maladie se manifeste par une anémie se traduisant par des fatigues, des vertiges, des essoufflements, des crises douloureuses pour ne citer que celles-ci. Cette maladie reste très peu connue et pourtant près de 5% de la population mondiale porte les gènes des maladies de l'hémoglobine. Connaître son statut est la première étape pour éviter la propagation, car la drépanocytose se transmet des parents aux enfants et il n'existe pour l'heure aucun traitement pour en guérir. Pour en savoir plus, nous avons contacté le professeur Akwete Yvonne Segebna. Il est enseignant à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lomé au Togo.
La drépanocytose est une maladie du globule rouge et en particulier de l'hémoglobine. Chez les drépanocytaires, l'hémoglobine normale AA est substituée par une hémoglobine anormale qui est l'hémoglobine S. La transmission est génétique, c'est-à-dire que ce sont les parents qui transmettent la drépanocytose à leur enfant.
Et à l'origine, qui sont les personnes les plus touchées? Qui est-ce qui est concerné par cette maladie?
Il y a beaucoup de personnes, surtout en Afrique subsaharienne, où les fréquences varient de 5 à 30% en fonction des régions. La région de la forêt congolaise, disons d'Afrique centrale, autour de 30% de prévalence du trait X. Chez nous, au Togo, nous sommes autour de 16% de prévalence du trait AS. Donc, vous mesurez donc l'impact en termes de transmission de la maladie.
Quels sont les signes qui peuvent alerter une personne de l'existence de cette maladie dans son corps?
Généralement, lorsqu'on présente une forme majeure de drépanocytose, cette forme majeure, c'est la drépanocytose homozygote, couramment appelée SS. Ensuite, il y a la drépanocytose hétérozygote, c'est la forme SC. Et ensuite, il y a l'association de formes d'hémoglobine S associée à la thalassémie, en particulier à la bêta-thalassémie. Donc voilà les formes. Et donc généralement, c'est dès la naissance, dans les 6 mois qui suivent la naissance de l'enfant, que les premiers signes apparaissent. Et c'est surtout l'anémie, mais aussi ce qu'on appelle le syndrome pied-main, c'est-à-dire que le dos de la main et le dos des pieds sont gonflés. Donc c'est les premiers signes de la maladie dans l'enfant.
Et quelles peuvent être alors les complications les plus graves pour les personnes vivant avec la drépanocytose?
Ça dépend de la prise en charge. Ce qui a été rapporté d'une manière générale, les différentes études sont concluantes, c'est qu'il faut une prise en charge précoce dès le bas âge, c'est-à-dire en faisant donc, si c'est possible, un dépistage néonatal, c'est-à-dire à la naissance. Et dès que le dépistage est fait, il faut la prise en charge de ces patients. Et lorsque la prise en charge est précoce, le pronostic de la maladie et même l'espérance de vie sont différents. Mais si elle est tardive, on développe des complications. La drépanocytose est une maladie multifocale qui va toucher un certain nombre d'organes chez le drépanocytaire, surtout dans l'enfance. Ce sont les syndromes infectieux. Ensuite, il y a des complications liées à l'anémie. Généralement, on aboutit à une ischémie vésiculaire vers l'adolescence et l'âge adulte. Et il y a aussi les accidents vasculaires cérébraux qui sont possibles chez les drépanocytaires.
Existe-t-il un traitement pour la drépanocytose?
Jusqu'à présent, la seule possibilité de guérison de la drépanocytose est la greffe de moelle osseuse. Mais les indications sont réservées, notamment aux patients ayant fait un accident vasculaire cérébral. Par ailleurs, il faut noter que le coût d'une greffe de moelle osseuse va dans les 100 millions de francs CFA, donc pratiquement inaccessible à notre pays. En deuxième ligne, il y a l'hydroxyurée qui permet quand même d'espacer les crises et d'améliorer un certain nombre de symptômes chez les hépanocytaires. Et généralement, surtout dans les pays développés en Europe et aux États-Unis, les patients sont mis systématiquement sous hydroxyurée et cela leur permet d'avoir un confort de vie acceptable. Bon, les autres produits utilisés, c'est surtout l'acide folique pour aider à la production des globules rouges. Et dans notre contexte en Afrique, le problème de paludisme se pose. Il faut, dans la mesure du possible, assurer la prévention du paludisme et éventuellement, dès qu'on soupçonne un paludisme, faire un traitement préventif.
Et dès lors que l'on sait que la maladie se transmet des parents aux enfants, y a-t-il des moyens pour un drépanocytaire d'avoir des enfants sains? Quels conseils pouvez-vous donner aux parents drépanocytaires?
Tout cela dépend de la technologie disponible. C'est possible de détecter durant la grossesse si l'enfant qui va naître sera drépanocytaire. C'est des tests qu'on effectue généralement dans les 3 premiers mois de la grossesse. Les parents peuvent alors décider de garder l'enfant, soit alors éventuellement faire procéder à un avortement thérapeutique. Bon, maintenant, pour les parents qui ont des enfants drépanocytaires, le meilleur conseil, c'est la prise en charge médicale. Une prise en charge médicale au long cours qui va permettre de suivre régulièrement le malade et de pouvoir éventuellement traiter d'éventuelles complications. Mais toujours est-il que ça améliore énormément les conditions de vie des parasitaires.
Et donc la prise en charge est purement médicale?
Oui, c'est purement médical. Bon, maintenant, des essais sont en cours pour la thérapie génique, mais cela n'est pas encore concrétisé pour qu'on parle de cette utilisation à grande échelle. Toujours est-il que dans les essais chez les animaux, on a pu guérir la souris de panocytaire, pas thérapie génique. Bon, maintenant, la question de savoir quelles seront les modalités si on veut les transférer sur l'humain. Mais ça aussi, c'est un traitement qui va coûter cher. Hein. C'est pratiquement inaccessible aux populations d'Afrique subsaharienne. Donc, la meilleure chose, c'est le dépistage et la prise en charge.
C'est quoi l'accessibilité en termes de coûts financiers de la population, effectivement, de l'Afrique subsaharienne à ces soins de santé?
Le coût financier est lourd, hein? Surtout dans l'enfance ou des syndromes infectieux. Bien sûr, il y a la prévention aussi de ces problèmes infectieux par les vaccinations et surtout la mise sous pénicilline orale au long cours, au minimum jusqu'à 5 ans. Bon, donc, les parents doivent pouvoir disposer de moyens pour pouvoir acheter ces médicaments. À long terme, le coût de la maladie est élevé, hein. Nous n'avons pas forcément des systèmes d'assurance maladie dans nos pays. Donc, à la longue, ça pèse sur les parents.
Nous remercions le professeur Akwete Yvonne Segebna qui nous répondait depuis Lomé au Togo.
Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage.
Entrons maintenant dans l'univers d'un malade de drépanocytose. Blaise est un jeune Congolais de la ville de Beni, en République démocratique du Congo. Il est malade depuis son enfance et reçoit régulièrement des soins au centre hospitalier Imagerie du Grand Lac de Beni. Il a accepté de partager avec nous ses souffrances et les craintes que lui impose cette maladie. Il est au micro de notre correspondant dans le Nord Kivu, Erikas Mouissi.
Selon les explications de ma mère, ma maladie avait été découverte avant mon cycle primaire. J'avais commencé à développer les anémies récurrentes. J'avais en même temps deux mains et deux pieds qui gonflaient sans raison. À cela s'ajoute aussi des forts maux de tête, sans aucun fondement. À ces temps, il y avait beaucoup de choses bizarres sur moi et maman perdait de plus en plus l'espoir.
Racontez-nous en même temps comment vous vivez avec cette maladie, vos difficultés à traitement.
C'est une maladie très difficile. Je ne me sens pas à l'aise. Il m'arrive de piquer de crise. Je me souviens bien quand j'étais étudiant, il m'arrivait qu'à l'auditoire, je puisse tomber au vide de tous. Comme vous me voyez ici, s'il fait chaud, j'ai de sérieux problèmes. Je ne sais pas vivre en toute quiétude.
La drépanocytose est une maladie génétique. Avez-vous déjà reçu de conseils sur le fait que vous pourriez transmettre cette maladie à vos enfants?
Je crois que c'est le premier réflexe que je dois avoir quand on me dit que c'est une maladie génétique. Voilà ce qui renforce encore mon malheur dans ce monde. C'est ainsi qu'il m'avait été conseillé d'abord de connaître mon état avant le mariage pour savoir si je suis AS ou SS.
Alors, quelles sont vos craintes aujourd'hui et vos espoirs à ces propos?
Les craintes sont multiples. Il m'arrive des fois de ne pas penser sur le mariage. Je me dis, pourquoi mettre au monde des enfants qui risqueront de se poser de mille et une questions sur cette maladie génétique? Autre chose, je voudrais demain avoir un boulot pour subvenir à mes besoins, envie de quitter cette dépendance. Mais qui me les donnera, sachant que je suis voué permanemment à des crises récurrentes? Non, mon cher, que Dieu nous fasse simplement grâce.
Restons en RDC, le troisième pays le plus touché par la drépanocytose après l'Inde et le Nigeria. Là-bas, 50 000 enfants naissent chaque année avec le gène drépanocytaire. Il faut espérer que le test de dépistage rapide en cours de vulgarisation dans le pays aidera dans la lutte. Le docteur Patricia Foto, directrice du programme national de lutte contre la drépanocytose en RDC, nous a dit ce qui se fait dans le pays pour combattre la maladie. Elle était au micro de notre correspondante à Kinshasa, Béro Matanda.
C'est un réel problème de santé publique, non seulement en RDC, mais dans plusieurs contrées de l'Afrique subsaharienne et aussi dans le monde, dû aux migrations et aux mariages mixtes. Pourquoi est-elle un problème de santé publique? Parce que c'est une maladie grave et aussi sa prévalence dans la population. Dans sa forme hétérozygote, elle est environ 30 à 40% et dans sa forme homozygote, c'est-à-dire le malade, qui est de 3 à 4%. Donc en RDC, nous avons 3 à 4% de nouveaux-nés qui naissent drépanocytaires. La RDC elle-même a le lourd fardeau de porter environ 50 000 naissances chaque année.
Quelle est la politique de santé publique des autorités de la RDC pour lutter contre la drépanocytose?
Sa politique consiste en deux stratégies, stratégie de base et stratégie d'appui. Pour les stratégies de base, nous commençons par viser la prévention que nous définissons par la communication pour le changement de comportement, le conseil génétique et aussi le dépistage. Ensuite, nous avons la prise en charge des cas et la surveillance épidémiologique. Quant aux stratégies d'appui, là nous avons la formation du personnel, la planification et le suivi évaluatif.
Madame Foto, le test de dépistage rapide de la drépanocytose sera désormais vulgarisé en RDC. Est-ce qu'il y a des avantages par rapport à cela?
Comme le nom l'indique, c'est un test qui est rapide. On peut le faire directement en 5 minutes. Et il pourra être accessible sans tenir compte de l'électricité. Parce qu'il se fait juste sur une petite plate-bande. Après ça, il est rapide. Son résultat, on le obtient après 5 minutes. Et il pourra être accessible à un grand nombre de populations, même dans le milieu très difficilement accessible géographiquement.
Y a-t-il des stratégies pour sa vulgarisation?
Pour sa vulgarisation, nous attendons à pouvoir redynamiser les partenaires de techniques et financiers et aussi redynamiser le partenariat public-privé pour soutenir ce test de dépistage.
Avant de terminer, est-ce que nous pouvons savoir les perspectives d'avenir à court, à moyen, à long terme dans la lutte contre la drépanocytose en RDC?
À court terme, nous voulons mener un plaidoyer pour la mobilisation des ressources, vulgariser le protocole de prise en charge qui existe et qui a été révisé, vulgariser le test de dépistage rapide et à moyen terme, nous comptons intégrer la drépanocytose dans le paquet minimum d'activités et le paquet complémentaire des zones de santé. Et nous comptons aussi rendre systématique le dépistage néonatal. À long terme, nous voulons avoir un laboratoire national pour promouvoir la recherche pour la drépanocytose.
Terminons cette série de témoignages par la découverte de la Fondation Pierre Fabre, une référence dans la lutte contre la drépanocytose. Jointe à Paris, Béatrice Garrette, directrice générale de la dite fondation, a expliqué ce qu'ils font en Afrique.
La Fondation Pierre Fabre est une fondation reconnue d'utilité publique dont la mission est d'améliorer l'accès aux médicaments et aux soins de qualité dans les pays les moins avancés et les pays émergents. La fondation a été créée en 1999 par M. Pierre Fabre, qui est aussi le créateur de l'entreprise Les Laboratoires Pierre Fabre. Et c'est une fondation d'utilité publique qui agit de manière indépendante et désintéressée. La fondation est actionnaire à 87% de l'entreprise. Donc c'est les dividendes qui permettent à la fondation de financer ses programmes.
Quels sont les projets que vous développez sur le continent et quels sont les résultats obtenus depuis que vous opérez en Afrique ?
Cela fait plus de 10 ans maintenant que la Fondation intervient dans le domaine de la lutte contre la drépanocytose en Afrique. Et elle mène actuellement 7 programmes dans 9 pays. Mmh. Tout a commencé en fait au Mali par un partenariat public-privé avec le gouvernement du Mali et la création d'un centre dédié qui s'appelle le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose à Bamako, qui en fait accueille les patients en hôpital de jour, fait du dépistage, fait également la formation des professionnels de santé et prend en charge en fait les patients une fois qu'ils ont été dépistés tout au long de leur vie, puisque comme vous le savez, c'est une maladie chronique. Et aujourd'hui, le CRLD en fait s'occupe de plus de 7000 patients.
Vous pouvez dérouler un peu les différents types de projets ?
Alors en fait, nous sommes présents maintenant dans différents pays, comme je vous l'avais dit, donc des pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, le Sénégal, le Burkina Faso, les deux Congo, la RDC, la RC, le Cameroun, Madagascar également, et puis nous avons aussi un début de projet en Haïti. Alors nous faisons donc du dépistage, de l'accès aux soins, de la formation des professionnels de santé, et puis également de la sensibilisation, parce que c'est une maladie qui est très très mal connue, de la population, et puis également des soignants. Donc c'est important que les gens connaissent aussi leurs conditions et comment ils peuvent se prendre mieux en charge.
Donc vous aviez dit que vous suivez à peu près 7000 patients, c'est bien ça ?
Alors ça, c'est dans le cas du Mali. Dans d'autres pays, en fait, nous avons différents modes d'intervention, mais nous intervenons toujours avec les acteurs locaux. Mmh. Alors ça peut être, par exemple, dans le cas de Saint-Louis du Sénégal, nous sommes le partenaire de l'université Gaston Berger, pour une étude opérationnelle qui, à partir de cette année, va commencer à dépister de façon systématique tous les nouveau-nés qui naissent autour de Saint-Louis pour avoir une prise en charge précoce et, en fait, documenter cette étude de façon à donner un plan un peu d'intervention au ministère de la Santé et montrer qu'une prise en charge précoce améliore la morbidité et la mortalité. Au Burkina Faso, nous appuyons une association de patients qui est extrêmement active et nous avons démarré du dépistage, mais nous avons également créé un centre d'information pour la population, de façon à avoir de l'information. Et nous avons appuyé le plateau technique d'un certain nombre de structures de soins. À Kinshasa, là aussi, on a un grand programme de dépistage néonatal et on a appuyé l'hôpital de Moncolé. Donc les interventions peuvent être différentes. Nous essayons d'aller là où il y a des urgences en appuyant déjà les structures et les personnels de santé et les équipes qui travaillent sur cette pathologie.
Quelles sont vos ambitions et vos projets à moyen et à long terme ?
Nos ambitions, c'est d'abord aussi d'appuyer la décentralisation des soins. Parce que quand vous avez un centre de référence, malheureusement, ce centre, il grossit et il ne peut pas traiter toute la population. Donc c'est important qu'ensuite, on puisse appuyer les hôpitaux régionaux et les structures décentralisées pour prendre la population en charge là où elle vit. Nous avons dernièrement repéré aux États-Unis un test de diagnostic rapide qui est développé par une biotech américaine qui nous a semblé particulièrement pertinent. Et nous avons pris l'initiative d'organiser une recherche multicentrique dans 3 pays d'Afrique pour tester en fait ce test de diagnostic rapide et le comparer avec les techniques traditionnelles de dépistage qu'on appelle le Golden Standard et vérifier sa fiabilité. Donc nous l'avons fait au Mali, au Togo, avec d'excellents résultats. Et le 3e volet d'études a lieu actuellement auprès des populations de nouveau-nés en RDC. Si ça fonctionne bien, ça va permettre en fait un dépistage beaucoup plus rapide, beaucoup plus massif et beaucoup plus décentralisé. Évidemment, le souci après, ça sera d'organiser la prise en charge. Un autre de nos challenges dans l'avenir, c'est d'encourager la recherche. Et il faut absolument encourager les hématologues et les équipes médicales et de chercheurs du Sud de façon à ce qu'eux aussi puissent mener leur recherche en vue d'améliorer la connaissance et la prise en charge.
Nous remercions Béatrice Garrett qui nous répondait depuis la France. Pour suivre les activités de la Fondation, connectez-vous sur www.fondationpierrefabre.org. Si vous avez des questions sur le VIH, la drépanocytose ou sur les thèmes de santé en général, contactez-nous sur la page Facebook de l'émission Votre Santé, Votre Avenir. Et puis Votre Santé, Votre Avenir s'écrit sans accent et en un seul mot.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé cette semaine. L'un de nos correspondants à RDC, Erikas Mouizi, a recueilli les questions auprès de nos auditeurs à Bukavu. Nous avons sélectionné l'une de ces questions et notre consultant, le docteur Amangenkap, y a répondu. Le docteur Amangenkap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France.
Bonjour docteur. Je suis Dudo Kaimbe, acteur de la société civile à Goma, au chef-lieu de la province Nord-Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Les habitants au chef-lieu de la province Nord-Kivu voudraient connaître les risques qu'ils courent suite à l'utilisation quotidienne des eaux du lac Kivu non chlorées, car depuis quelques semaines, les chlorateurs commis à la plage du peuple où toute la population puise de l'eau sont entrés en grève.
Est-ce que je peux répondre à cet auditeur ? C'est très simple. Les risques encourus sont évidents. Ils courent les risques d'attraper une maladie hydrique. Parmi les maladies hydriques, la plus redoutable, c'est le choléra. Mais il y a aussi la fièvre typhoïde que nous redoutons. Bien évidemment, il y a aussi les hépatites, notamment les hépatites A et E, qui sont des hépatites hydriques, alors que les hépatites B et C sont des hépatites plutôt dont on contacte par voie sanguine. Les risques qu'on court également en consommant une eau qui n'est pas traitée, une eau qui n'est pas potable, une eau qui probablement doit être pollué, c'est bien sûr les infections intestinales comme les ascaridioses. Et il ne faut pas oublier qu'en se lavant dans le lac, et le lac n'étant pas traité, on peut attraper la bilharziose intestinale ou la bilharziose génitale. Et là, ça va se manifester par des personnes notamment qui vont peut-être uriner rouge, comme s'ils urinaient du sang. Et ça, c'est la bilharziose urogénitale que ces personnes-là ont attrapée en se lavant dans ce lac-là. Mais ce que je veux rajouter à cet auditeur, c'est qu'il peut lui-même essayer de traiter son eau si l'eau du lac n'est pas traitée du fait que les chlorateurs sont en grève. Soit il le fait bouillir pendant à peu près 15 minutes. Et à partir du moment-là, il rend cette eau-là potable après l'avoir fait bouillir pendant 15 minutes à peu près. Soit il prélève à peu près 10 litres d'eau de ce lac-là dans lequel il va ajouter une cuillère à café d'eau de Javel qui va laisser mijoter pendant à peu près 30 à 45 minutes. Et une eau de ce lac de 10 litres de quantité avec une cuillère à café d'eau de Javel permet de rendre cette eau-là traitée, chlorée, et au bout de 30 à 45 minutes, elle devient propre à la consommation et il peut la consommer sans danger.
C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée à la drépanocytose, une maladie génétique qui se transmet des parents aux enfants. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le professeur Akouete Yvonne Segebna, enseignant à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lomé au Togo. Il nous a expliqué les causes, les manifestations et les moyens de prise en charge des malades. Nous avons aussi écouté le docteur Patricia Foto du Programme national de lutte contre la drépanocytose à RDC et Béatrice Garrett de la Fondation Pierre Fabre qui contribue à la lutte contre la maladie en Afrique. Notre consultant, le docteur Amangenkap, a répondu aux questions des auditeurs. Merci à tous ces experts et spécialement à Blaise, un malade de la drépanocytose qui a accepté de témoigner sur les souffrances, les peurs et les doutes que lui impose la maladie.
Merci également à Firmin Koyaweda qui était avec nous pour l'actualité santé. Nous remercions également nos différents correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Bero Matanda à Kinshasa et Erikas Mouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Michel Joseph et de Aiden Utko qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Monezero et j'étais en compagnie de
Mamadou Oumfa.
Restez branchés au programme de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car
votre santé, c'est votre avenir.
À la prochaine.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOAfrique.